Chapitre 19. Évasion du prince. J'ai vécu ainsi pendant 2 ans. Je n'eus, pendant ces 2 années, d'autres espoirs, d'autres désirs, d'autres idées que de m'échapper de cet enfer, rendu plus horrible par les souffrances, les désespoirs, les maladies, la mort de mes compagnons de misère. Je préparais tout pour ma fuite. J'avais étudié avec soin les cartes géographiques qui tapissaient les murs. J'avais adroitement et longuement interrogé les marchands qui couraient le pays, qui allaient aux foires et qui venaient faire des affaires avec les gens de la ville. Je m'étais fabriqué un passeport, ayant eu entre les mains bien des feuilles de papier timbré et un cachet aux armes de l'empereur, avec lesquels j'avais mis en règle mon placatni. Passeport. J'avais réussi à me procurer de droite et de gauche un vêtement complet de paysan aisé. J'avais amassé 200 roubles sur les gratifications qui nous étaient accordées et sur la petite somme qu'on allouait pour nos vêtements et notre nourriture. Me trouvant en mesure d'exécuter mon projet de fuite, je sortis le soir du 10 novembre de l'établissement des Katerininskis à Vod. J'avais sur moi 3 chemises, dont une de couleur, retombant sur le pantalon comme les portent les paysans russes, un gilet et un large pantalon en gros drap, et par-dessus un armiac, espèce de burnous en peau de mouton qui descendait à mi-jambe, et de grandes bottes à revers bien goudronnées. Une ceinture de laine blanche, rouge et noire, attachait mon armiac. Sur la tête, j'avais une perruque de peau de mouton, laine en dehors, et par-dessus un bonnet de drap bien garni de fourrure. Une grande pelisse en fourrure recouvrait le tout. Le collet, relevé et noué au cou avec un mouchoir, me cachait le visage et me tenait chaud en même temps. Dans un sac que je tenais à la main, j'avais mis une paire de bottes, une chemise et un pantalon d'été bleu, du pain et du poisson sec. Je mis mon argent sous mon gilet. Dans ma botte droite, je plaçai un poignard. Il gelait très fort. J'arrivai au bord de l'Irtrich qui était gelé. Je le traversai et je pris le chemin de Para qui se trouvait à 12 kilomètres des Katerininskis à Vod. À peine avais-je fait quelques pas au-delà de l'Irtich que j'entendis derrière moi le bruit d'un traîneau. Le cœur me battit avec violence. C'étaient sans doute les gendarmes envoyés à ma poursuite. Je tressaillis, mais j'attendis, le poignard à la main, décidé à vendre chèrement ma vie. Je me retournai quand le traîneau fut près de moi. C'était un paysan. « Où vas-tu ? » me demanda-t-il en s'arrêtant devant moi. « À Para. Et d'où viens-tu ? » « Du village de Zalivina. »« Veux-tu me donner 60 kopecks ? Je te mènerai jusqu'à Para. J'y vais moi-même. »« Non, c'est trop cher. 50 kopecks. »« C'est bien. Monte vite, mon frère. » Je me mis près du paysan et nous partîmes au galop. Le paysan était pressé, la route était belle, les chevaux étaient bons. 1 heure après, nous étions à Para. Je descendis dans une des rues de la ville, je m'approchai d'une fenêtre basse et je demandai à haute voix, comme font les Russes, « Y a-t-il des chevaux ?»« Pour aller où ?»« À la foire d'Irbit. » »« Il y en a 1 paire. »« Combien la verse ?»« 8 kopecks. »« C'est trop. 6 kopecks. » Que faire ? Soit, dans l'instant. Quelques minutes après, les chevaux étaient attelés au traîneau. D'où êtes-vous ? Me demanda-t-on. De Tomsk. Je suis le commis de Golofeyev. Mon patron m'attend à Irbit. Je suis fort en retard. Je crains que le maître ne se fâche. Si tu vas vite, je te donnerai un pourboire. Le paysan siffla et les chevaux partirent comme des flèches. Mais la neige commença à tomber, épaisse et serrée. Le paysan perdit son chemin et, après des efforts inutiles pour le retrouver, il me déclara qu'il fallait passer la nuit dans la forêt. Je fis semblant de me mettre en colère, je menaçai de me plaindre à la police en arrivant à Irbit. Rien n'y fit, nous fûmes obligés d'attendre le jour. Cette nuit fut affreuse d'inquiétudes et d'angoisses. Je me croyais trahi par mon guide, comme l'avait été quelques années auparavant l'infortuné Vysoki, forçat comme moi, fuyant comme moi, et qui, après avoir été égaré toute une nuit comme moi dans la forêt où j'étais, fut livré aux gendarmes par son conducteur. Quand le jour parut, je menaçai encore mon paysan de le livrer à la police pour m'avoir fait perdre mon temps. Le malheureux fit son possible pour retrouver quelques traces du chemin qu'il avait bien réellement perdu et, au bout de quelques instants, il s'écria tout joyeux « Voici des traces que je reconnais, c'est le chemin que nous devions suivre. »« Va donc, lui dis-je, et à la grâce de Dieu. » Le paysan fouetta ses chevaux et arriva bientôt chez un ami qui me donna du thé et d'autres chevaux pour continuer ma route. Je changeai ainsi de chevaux et de traîneaux jusqu'à Irbite. J'avais couru, sans m'arrêter, 3 jours et 3 nuits. Les dernières 24 heures, je repris toute ma sécurité. La route était tellement encombrée de traîneaux, de kibitka, espèce de cabriolet sur patins l'hiver, sur roues l'été, de télégas, d'hommes à cheval, de piétons qui chantaient à tue-tête, criaient, se saluaient, que je ne courais plus aucun danger d'être reconnu ni arrêté. Je fis comme eux, je chantais, je criais, je saluais des inconnus. J'étais à 1000 kilomètres des Katerininski Zavod. Le soir du 3e jour, nous entrâmes dans la ville d'Irbite. « Votre passeport !» me cria le factionnaire. Il ajouta très bas « Donnez 20 kopecks et passez !» Je donnai vite les 20 kopecks et je m'arrêtai devant une hôtellerie où j'eus assez de peine à me faire recevoir. Tout était plein. L'izba était déjà encombrée de yamchtik, conducteurs de chevaux et traîneaux. Je pris ma part d'un bruyant repas sibérien composé d'une soupe au rave, de poissons secs, de gruau à l'huile et de choux marinés. Chacun s'étendit ensuite sur les bancs, sous les bancs, sur les tables, sur le poêle et par terre. Je me couchai par terre, mais je ne pus dormir. J'avais compté ce qui me restait d'argent. Je n'avais plus que 75 roubles. Avec une aussi faible somme, je devais renoncer à voyager en traîneau. Il me fallait achever ma route à pied. J'avais des milliers de verstes à faire avant de me trouver au-delà de la frontière russe et je devais mettre près d'un an à les parcourir. Je ne perdis pourtant pas courage. J'invoquai Dieu et la Sainte Vierge qui me procureraient sans doute quelque travail, quelque moyen de gagner ma vie pour arriver jusqu'en France, seul pays au monde qui ait été compatissant et généreux pour les pauvres Polonais. Le lendemain, je quittai de grand matin l'Izba et Irbite. En sortant de la ville, le factionnaire me demanda mon passeport ou 20 kopecks. Je préférais donner les 20 kopecks et bien m'en pris, car à quelque distance de la ville, je voulus jeter un coup d'œil sur mon passeport, je ne le trouvais pas. J'eus beau chercher, fouiller de tous côtés, je ne pus le retrouver. Il ne me restait qu'une passe de forçat pour circuler dans les environs des Katerininski Zavod. Je l'avais sans doute perdu dans un traîneau ou dans la ville à la coucher. Un tremblement nerveux me saisit. Sans passeport, je ne pouvais m'arrêter dans aucune ville, aucun village. Je me trouvais condamné à passer mes nuits dans les forêts ou dans les plaines immenses nommées steppes. Cet hiver de 1856 était un des plus rigoureux qu'on eût vu depuis plusieurs années. La neige tombait en abondance. Je me trouvais sans cesse couvert d'une couche de neige que je secouais. Elle tombait si serrée qu'elle effaçait les traces des routes praticables. Heureusement que les voyageurs sibériens ont l'habitude de planter dans la neige de longues perches de sapin pour guider leurs compatriotes. Mais souvent ces perches, abattues par les ouragans, manquent aux voyageurs. Je marchais pourtant sans perdre courage. Parfois, je rencontrais des yamchiks qui venaient à ma rencontre. Je suivais la trace qu'avaient laissée leur traîneau et je marchais ainsi jusqu'à la nuit. Alors, je creusais dans la neige un trou profond en forme de grotte. Je m'y établissais pour dormir en fermant de mon mieux, avec de la neige, l'entrée de ma grotte. La première nuit que je passais ainsi, je m'éveillais les pieds presque gelés parce que j'avais mis sur moi mon manteau de fourrure, le poil en dedans. Je me souvins que les Ostiaques, peuplades du nord de la Sibérie, qui se font des abris pareils dans la neige quand ils voyagent, mettent toujours leur fourrure le poil en dehors. Ce moyen me réussit, je n'eus jamais les membres gelés depuis. Un jour, l'ouragan et le chasse-neige furent si violents que les perches de sapin furent enlevées. Je ne rencontrai personne qui pût m'indiquer mon chemin et je m'égarai. Pendant plusieurs heures, je marchais vaillamment, enfonçant dans la neige jusqu'au rein, cherchant à me reconnaître et m'égarant de plus en plus. La faim se faisait cruellement sentir. Mes provisions étaient épuisées de la veille, le froid engourdissait mes membres, je n'avançais plus que péniblement. La fatigue me faisait tomber devant chaque obstacle à franchir. Enfin, au moment où j'allais me laisser tomber pour ne plus me relever, j'aperçus une lumière à une petite distance. Je remerciai Dieu et la Sainte Vierge de ce secours inespéré, je recueillis les forces qui me restaient et j'arrivai devant une isba qui était à l'extrémité d'un hameau, dont les fenêtres s'éclairaient successivement. Une jeune femme se tenait près de la porte de l'isba. Je demandai à entrer. La jeune femme m'ouvrit sur le champ et je me trouvai dans une chambre bien chaude, en face d'une vieille femme, mère de l'autre. « D'où viens-tu? Où te mène le bon Dieu ?» me demanda la vieille. « Je suis du gouvernement de Tobolsk, mère, lui répondis-je, et je vais chercher du travail dans les fonderies de fer de Bohotol, dans les monts Oural. » Les deux femmes se mirent à me préparer un repas. Quand j'eus assouvi ma faim, je profitai du feu qu'elles avaient allumé pour faire sécher mes vêtements et mon linge humide de neige. La vue de mes quatre chemises éveilla les soupçons des femmes. Je m'étendis sur un banc et je commençais à m'endormir quand je fus éveillé par des chuchotements qui m'inquiétèrent. J'ouvris les yeux et je vis quelques paysans qui étaient entrés et qui s'étaient groupés autour des femmes. « Où est-il ? » demanda l'un d'eux à voix basse. La jeune femme me montra du doigt. Les hommes s'approchèrent et me secouèrent rudement en me demandant mon passeport. « De quel droit me demandez-vous mon passeport ? » lui répondis-je. « Est-ce que l'un de vous est Golova ? » ?»« Tête, ancien. »« Non, nous sommes habitants du hameau. » »« Et comment osez-vous me déranger ? Qui me dit quels gens vous êtes et si vous n'êtes pas des voleurs ? Attendez, vous trouverez à qui parler. » « Nous sommes d'ici et nous avons le droit de savoir qui nous logeons chez nous. »« Eh bien, je me nomme Dimitri Borganine, du gouvernement de Tobolsk, et je vais à Bohotol pour avoir de l'ouvrage dans les établissements du gouvernement, et ce n'est pas la première fois que je traverse le pays. » J'entrai alors dans les détails que j'avais appris par l'étude des cartes du pays et mes conversations avec les marchands des Katerininski Zavod. Je finis enfin par leur montrer mon passeport, qui n'était autre chose que la passe que j'avais conservée. Aucun d'eux ne savait lire, mais la vue du cachet impérial leur suffit. Ils furent convaincus que j'avais un passeport en règle et ils se retirèrent en me demandant humblement pardon de m'avoir dérangé. « Mais nous sommes excusables, amis, on nous ordonne d'arrêter les forçats qui s'échappent. Comment des forçats pourraient-ils se trouver si loin des Posséléniers ? Lieu de détention. Ils s'en échappent quelquefois et nous en avons arrêté quelques-uns. Ils me quittèrent et j'achevai ma nuit tranquillement. »